VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec avec vous. Il est 17h30, temps universel. Au sommaire de ce 13 février 2017, une dizaine de morts dans des violences intercommunautaires au centre du Mali. En République centrafricaine, le décès du général Joseph Zoundeko est confirmé. Et 6 journalistes ivoiriens incarcérés dans une affaire liée à la récente mutinerie de soldats. Et on parlera cinéma, le Sénégal à l'honneur, à la Berlinale. Retour également sur les Grammys ici aux États-Unis. Affrontement intercommunautaire entre éleveurs Peul et agriculteurs Bambara dans le centre du Mali. On compte plus d'une trentaine de personnes tuées ce week-end dans le cercle de Massina. Des habitations ont aussi été incendiées. Des violences qui tournent autour d'un partage de même terroir entre éleveurs et agriculteurs. Kassim Traoré nous en dit plus.
Les problèmes entre paysans et éleveurs ne datent pas d'aujourd'hui. Ils ont toujours réglé ces problèmes par le dialogue et la concertation sur la base des valeurs sociétales. Mais les affrontements de ce dimanche 12 février 2017 étaient d'une rare violence. Ces affrontements qui ont opposé Bamana et Peul à Kemasina ont fait plus d'une trentaine de morts et des blessés. Des hameaux ont été incendiés. À la base de ces affrontements, un différend entre Peul et Bamana dans un village. C'est ce qui a entraîné la violence entre les habitants d'un même village. Le tout tourne autour d'un partage de terroirs. Très tôt, ce lundi 13 février 2017, le gouverneur de la région de Ségou est arrivé sur place. Il était avec une force d'interposition de l'armée malienne, mais qui doit aussi procéder à la stabilisation dans la zone réputée proche du prédicateur Amadou Koufa. Le gouverneur de Ségou est parvenu à calmer les esprits. C'est là avant l'arrivée des autres bonnes volontés qui doivent jouer à calmer les ardeurs et puis procéder à l'inhumation des victimes. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En République centrafricaine, le général Joseph Zoundeko, chef d'état-major du FPRC, est bien mort dans un raid aérien de la MINUSCA sur l'axe Ipibria, à 10 km de Bambari. Un hélicoptère de la force de l'ONU est intervenu samedi pour stopper une colonne du Front populaire pour la renaissance du Centrafrique de Noureddine Adam, qui se dirigeait vers la ville de Bambari, dans le centre du pays. Signalons que la MINUSCA avait annoncé qu'elle répliquerait si la coalition UPC-FPRC franchissait la ligne rouge près de Bambari. Idriss Fall a joint le général Azor Kalité, sous-chef commandant de l'état-major du FPRC.
Le général Zoundeko a été tué par la corde aérienne de la MINUSCA lors de notre avancée de conquérir la libération de la ville de Ipi. Face au combat que nous menons avec l'UPC, on a délogé la première barrière d'embuscade de la UPC, on a délogé la deuxième. À la troisième, la MINUSCA a soutenu rapidement l'UPC matériellement et physiquement avec des avions aériens. Et c'est là où le général Zoundeko, qui est tenté de crier aux populations civile de chercher des abris, il a été touché. Il est mort. Nous avons d'autres pères. Il y a 7 millions de populations civiles brûlées avec leurs biens. 3 femmes civiles qui ont été blessées de l'avion de MINUSCA.
Voilà, c'était Azor Kalité, sous-chef commandant de l'état-major du FPRC. République démocratique du Congo, aucune date n'est fixée pour le rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi. Voilà près de 2 semaines que l'opposant historique congolais est mort, mais sa famille souhaite des garanties préalables, notamment sur le lieu de sépulture et sur la sécurité lors des funérailles. Il est décédé le 1er février à l'hôpital Sainte-Élisabeth de Bruxelles, où il s'était rendu une semaine plus tôt pour des soins médicaux. Ces journalistes ivoiriens, dont 3 patrons de presse, ont été interpellés et incarcérés hier dans une affaire liée à la récente mutinerie de soldats. Anastasie Tudiech.
Camara Koulibaly, Yacouba Gbané et Franck Bamba Mamadou, respectivement directeurs de Quotidien Populaire, sont détenus en même temps que leurs collaborateurs Amadou Ziao, Jean-Bédel Gnago et Ferdinand Bailly. Selon un communiqué du procureur, il est reproché aux journalistes d'avoir divulgué des informations fausses de nature à inciter les soldats à la révolte. Début janvier, la Côte d'Ivoire a été secouée par une mutinerie d'anciens rebelles intégrés dans l'armée pour réclamer le paiement de primes. Ils avaient paralysé plusieurs villes et 4 personnes ont été tuées à Yamoussoukro. Le SINAPSI, le syndicat national des professionnels de la presse de Côte d'Ivoire, condamne dans un communiqué, je cite, « cette énième atteinte flagrante à la liberté d'expression et à la liberté de la presse et exige la libération immédiate et sans condition des journalistes illégalement détenus ». Fin de citation.
Le président nigérian Muhammadu Buhari s'est entretenu avec son homologue américain Donald Trump aujourd'hui. D'après le communiqué de la présidence nigériane, la conversation téléphonique a été cordiale. Depuis Londres, le président Buhari a félicité Donald Trump pour son élection. Les deux dirigeants ont discuté des moyens d'améliorer la coopération dans la lutte contre le terrorisme et l'équipement nécessaire. Et toujours selon Abuja, le président Trump a encouragé le président Buhari à poursuivre le bon travail qu'il accomplit notamment et ses efforts pour sauver 24 des lycéennes enlevées à Chibok, ainsi que les progrès réalisés par l'armée nigériane. Sachez aussi que Donald Trump s'est également entretenu avec le président sud-africain Jacob Zuma aujourd'hui. Trafic de bébés au Niger. Le procès impliquant le principal opposant Ama Amadou a été reporté au 13 mars. La mesure prise à la demande des avocats de Ama Amadou peu après son ouverture aujourd'hui à Niamey. Raison évoquée, la défense n'ayant pas encore reçu les réquisitions du procureur général. Elle estime ne pas pouvoir plaider le dossier. Rappelons qu'un ex-ministre, des banquiers, des hommes d'affaires, un officiers de l'armée ainsi que leurs épouses sont poursuivis aux côtés d'Ama Amadou pour supposition d'enfant, un délit consistant à attribuer la maternité d'un enfant à une femme qui ne l'a pas mis au monde. 7 représentants syndicaux des médecins kényans ont été écroués après avoir été condamnés à 1 mois de prison pour leur rôle dans une grève qui paralyse les hôpitaux publics depuis 10 semaines. Nathalie Barge.
Condamnés à 1 mois de prison avec sursis en janvier, les syndicalistes avaient 2 semaines pour annoncer la fin de la grève, faute de quoi la peine serait appliquée, ce que le juge a ordonné ce lundi. Les grévistes ont aussitôt annoncé suspendre les négociations et appeler à la libération des médecins. La justice considère le mouvement illégal au motif qu'il a été enclenché alors que des négociations étaient en cours. Les médecins ont fait valoir que leur revendication principale, la multiplication de leur salaire par 4, figurait dans un accord de 2013 qui n'a jamais été appliqué. Ils ont déjà rejeté une proposition d'augmentation de salaire de 40%. Le chef de l'opposition, Raila Odinga, a condamné les incarcérations, accusant le président Uhuru Kenyatta d'avoir passé 4 années à ignorer des problèmes et rappelant que le droit de grève est garanti par la Constitution.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le nord de la Californie, les autorités ont ordonné l'évacuation des quartiers avoisinant le barrage d'Oroville par crainte d'un effondrement. La mesure a jeté sur les routes des dizaines de milliers de personnes depuis hier. Gaby Dwarsil nous en dit plus.
Crainte justifiée selon les experts, puisque le réservoir principal du barrage a subi des dommages et la semaine dernière, un déversoir d'urgence a aussi montré des signes d'usure. Même si le danger immédiat semble écarté, l'ordre d'évacuation reste en place alors que les autorités évaluent les structures en question. Un effondrement mettrait en danger toute la zone d'Oroville et ceux qui vivent en aval dans la vallée. Classé le plus grand des États-Unis avec une hauteur de 237 mètres, le barrage d'Oroville retient les eaux du lac Oroville à 105 km de Sacramento, la capitale régionale. Cette installation joue un rôle clé dans les systèmes d'eau et d'électricité de la Californie. Des efforts étaient en cours lundi matin pour libérer l'eau du lac et diminuer la pression sur les déversoirs et le gouverneur de la Californie, Jerry Brown, a pris un décret d'urgence pour renforcer les services de secours dans la zone concernée.
Les talibans ont encore frappé au Pakistan. Au moins 10 personnes sont mortes aujourd'hui dans un attentat lors d'une manifestation de pharmaciens. La faction Jamaat Ul Ahrar des talibans pakistanais a revendiqué l'attaque en plein centre de Lahore. Les forces irakiennes ont empêché la fuite d'environ 200 membres du groupe État islamique. Armés de chars, les djihadistes ont tenté de sortir de leur bastion de Tal Afar à l'ouest de Mossoul vers la Syrie voisine. Les combats ont duré environ 6 heures. Et puis en Syrie, le régime de Bachar al-Assad s'est dit prêt à échanger des détenus avec des rebelles quelques jours avant la tenue de discussions de paix au Kazakhstan. Combat au Yémen, 20 rebelles et soldats pro-gouvernementaux ont été tués dans l'ouest du pays où les forces loyalistes tentent d'avancer vers le nord en direction de la ville portuaire de Hodeïda. Information rapportée par l'AFP qui cite des sources militaires et médicales. Sachez enfin que c'est aujourd'hui la journée mondiale de la radio. Voilà pour le journal. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Dili Dico.
La structure gouvernementale nigériane de gestion d'actifs Amcon a annoncé avoir pris le contrôle de la principale compagnie aérienne privée du pays, Arik Air, afin de l'empêcher de déposer le bilan. La compagnie fondée en 2006 assure environ 60% des vols intérieurs au Nigeria. En décembre 2016, la compagnie n'était pas en mesure de rembourser des prêts de 135 milliards de naira, soit 402 millions d'euros. Les salaires du personnel n'ont pas été payés depuis 8 mois, les assurances, la réparation et l'entretien de ces avions non plus. Au Niger, les autorités ont signé avec Veolia, le spécialiste français du traitement de l'eau et des déchets, un accord sur le programme de gestion des ordures à Niamey. Cet accord s'inscrit dans le cadre du projet Niamey-Niale, Niamey la coquette. Selon Veolia, il donnera lieu en fin 2017 à une proposition de contrat sur la collecte et la construction d'un centre d'enfouissement des déchets. Pour l'instant, ce type de projet est rare en Afrique, mais de plus en plus, les initiatives de gestion des déchets apparaissent sur le continent. En Afrique de l'Est, les entreprises allemandes avancent leurs pions de manière stratégique. Plus de 400 représentants d'entreprises, de consultants et de politiques africains se sont réunis à Nairobi pour le deuxième sommet économique germano-africain. Le ministre allemand de la coopération économique a annoncé la mise en place de nouveaux échanges, d'investissements et de formations entre l'Afrique et l'Allemagne.
Sur les stades, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgan.
Retour de la Ligue africaine des champions.
Le tour préliminaire aller avait lieu ce week-end. L'AS Vita Club a pris un bon départ en allant s'imposer sur le plus petit des scores chez les Royals Léopards. Le FUS de Rabat n'a pu faire que match nul, un but partout en Sierra Leone contre le FC Johansen. Et puis dimanche, le Coton Sport de Garoua n'a pas tremblé contre l'Atlabara FC, 2-0. Quant aux Léopards de Dolisie, ils ont dominé l'UMS de Loum, 1-0. Enfin, mauvaise opération pour le stade malien, défait sur le terrain des Barak Young Countrywalers, 1-0. On rappelle que le tour préliminaire retour aura lieu le week-end prochain.
Reprise de la Ligue des Champions en Europe.
Duel de prestige demain soir entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone au Parc des Princes pour les huitièmes de finale. Dans l'autre rencontre, demain soir, le Borussia Dortmund de Pierre-Emerick Aubameyang face au Benfica Lisbonne. À suivre après-demain, le Real Madrid contre Naples et le Bayern Munich qui accueille Arsenal.
Et le Portugal qui progresse à l'indice UEFA.
Oui, le Portugal qui chippe pour un rien à la Russie, la sixième place de l'indice UEFA qui détermine, vous le savez, le nombre de clubs qualifiés en Coupe d'Europe avant la reprise de la Ligue des Champions et de l'Europa League cette semaine. Le haut du classement reste, lui, dominé par l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie.
Décès du premier sélectionneur africain médaillé au JO.
Samuel Emans Hardey, plus connu sous le nom de Sam Hardey, a été le premier coach à mener une équipe africaine sur un podium olympique. C'était lors des Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. Le Ghana avait alors obtenu la médaille de bronze. Avec les moins de 17 ans ghanéens, il avait remporté la première édition de la CAN disputée au Mali en 1995. La même année, il avait gagné la Coupe du Monde des moins de 17 ans en Équateur. En battant le Brésil en finale 3-2, Sam Hardey a également dirigé les Black Stars, la sélection senior du Ghana entre 1995 1996 et 1997, puis en 2004.
Et enfin, NBA, championnat de basket nord-américain.
Victoire de prestige des Knicks de New York face à San Antonio, 94-90. Chicago, privé de Dwayne Wade et de Jimmy Butler, ont concédé une nouvelle défaite face à Minnesota, 89-117. Quant à Toronto, ça va mal. La franchise canadienne, battue en finale de la conférence Est par Cleveland l'année dernière, eh bien Toronto s'est incliné face à Détroit, 101-102.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Morgane Guiriec en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. En Centrafrique, des combats ont repris de façon régulière depuis novembre autour de Bambari. Depuis une dizaine de jours, la situation s'est dégradée et des membres de l'UPC et d'Aline Daras affrontent des membres du FPRC de Noureddine Adam. Alors que signifient ces combats ? Quels effets vont-ils avoir sur le processus de paix et la stabilité en République centrafricaine ? Claire Morin-Gibourg a joint le porte-parole de la MINUSCA en Centrafrique, Vladimir Montero.
Les principales victimes, ce sont les populations civiles. Lorsque ces combats ont démarré à Bria, il y a eu immédiatement quelques 5000 déplacés internes, des gens qui ont cherché et trouvé refuge autour du camp de la MINUSCA. Un chiffre qui a augmenté puisqu'il y avait déjà des déplacés. Donc pour nous, c'est grave parce que depuis le début de ces combats, et ce sont les acteurs humanitaires qui nous le disent, il y a en ce moment 20 000 déplacés internes, des gens qui ont été contraints de quitter leur maison, n'est-ce pas, pour fuir les effets de ces affrontements, en plus des nombreuses victimes.
Est-ce que ces combats ont un effet sur la stabilité, un effet sur la paix en Centrafrique ? Faut-il s'inquiéter d'une reprise plus globale des combats ?
Évidemment, ces combats ont une implication sur la stabilité, sur la sécurité. Il y a des effets également sur l'économie. À un moment, la Banque centrale de l'Afrique avait salué les progrès, la croissance en Centrafrique, justement parce qu'il y avait la stabilité. La crainte, c'est que justement, ces affrontements n'aient un effet négatif sur une économie déjà fragile, en plus des effets que ces affrontements ont sur la population. Vous demandez s'il y a un risque d'affrontement global. C'est pour cette raison que la MINUSCA est présente, n'est-ce pas, dans le pays. C'est pour cette raison que la MINUSCA, depuis le début de ce conflit, n'a cessé d'appeler la FPRC et la coalition qu'il dirige et l'UPC de dialoguer pour essayer de trouver une solution pacifique à leurs différends, mais aussi aux groupes armés qui sont encore hors du processus de dialogue sur le DDRR lancé par le président de la République d'y adhérer. Il y a en ce moment 11 groupes qui participent régulièrement aux discussions. Il y a 3 qui n'en font pas partie, dont la FPRC. Et il est essentiel qu'une solution soit trouvée à la sécurité. Elle passe par le dialogue sur le DDRR. Nous avons ce travail de sensibilisation, de mobilisation, n'est-ce pas, de dialogue avec ces groupes. Mais en même temps, nous n'hésiterons pas à utiliser les moyens dont nous disposons pour protéger la population civile et pour contribuer à la restauration de l'autorité de l'État sur tout le territoire centrafricain.
Voilà, c'était Vladimir Monteiro, porte-parole de la MINUSCA en Centrafrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
L'association des Guinéens de Washington DC, Maryland et Virginie a organisé hier une conférence sur l'immigration et les mesures introduites par le président Donald Trump. Les participants ont pu poser leurs questions à des avocats du barreau de Washington DC. Plus d'informations avec Maître Shérif Salumba, président de la communauté guinéenne de Washington DC, Maryland et Virginie.
Il y a 2 executive orders qui ont été signés par le président Trump récemment. Le premier qui parle des 7 pays. Et le deuxième, ce qui nous concerne beaucoup plus, c'est le deuxième executive order qui parle de la situation des illégaux, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas de papier, et aussi des personnes parmi ces groupes, nous avons nos compatriotes guinéens qui sont concernés. Donc le système est alarmant. Raison pour laquelle hier nous avons eu à tenir un forum sur l'immigration où nous avons eu des experts qui sont venus nous parler, qui sont venus nous expliquer les lois et les nouvelles mesures prises.
À combien peut-on estimer les Guinéens en situation irrégulière en ce moment?
Nous avons actuellement 2142 Guinéens qui sont considérés comme des illégaux ici aux États-Unis. Et parmi ces 2142, il y a un chiffre un peu plus élevé de 500 qui ont reçu la lettre de rapatriement, qui ne sont plus désirés dans ce pays. C'est-à-dire, le juge de l'immigration a déjà livré sa décision et pour demander à ces 500 et quelques personnes de quitter le territoire américain.
Quel est l'impact de ces nouvelles lois sur la vie de la communauté guinéenne?
Il y a la peur qui s'est installée. Je reçois des appels de nos membres. Malgré que tu verras que quelqu'un même qui est en règle a peur, il t'appelle pour te demander, il dit est-ce que j'ai mon nom? J'ai dit non. C'est la raison pour laquelle nous devons faire beaucoup plus, informer nos membres beaucoup plus, parce qu'aujourd'hui, même les enfants qui sont là, peut-être eux, ils sont nés ici, mais leurs parents sont venus. Donc ces enfants ont peur, même quand ils vont à l'école, ils ont peur que s'ils entendent parler de cela, il faut se dire la vérité, ils vont dire que, ok, écoutez, peut-être que je vais rentrer à la maison, je ne trouverai pas mes parents à la maison.
Quelles sont les nouvelles ressources légales disponibles pour tout Guinéen qui pourrait éventuellement être interpellé?
Nous avons formé un groupe d'avocats qui est là à l'heure là pour assister toute personne qui a besoin d'aide dans notre communauté. Mais aussi le bureau est là, le bureau de la communauté guinéenne de DMV est là, prêt pour assister tous les membres de notre communauté qui ont besoin d'aide.
Voilà, Salomba Chérif, président de la communauté guinéenne de Washington DC, Maryland et Virginie, joint par Blanche Sanou.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Avec plus de 400 films présentés chaque année, la Berlinale est l'un des rendez-vous prisés des professionnels du cinéma. Cette année, le Sénégal est à l'honneur avec Alain Gomis, qui avait remporté l'étalon de Yeninga en 2013 avec son film Tay. Cette année, c'est la Berlinale qu'il a choisie pour la première de son tout nouveau film, Félicité. Arzuma Compaoré.
Mon pavillon 11, sur le premier point A, ok, tout droit, pavillon 11.
Kinshasa prend vie dans le nouveau long métrage d'Alain Gomis, Félicité, en compétition officielle au Festival du film de Berlin. Le film est un drame sur une chanteuse de bar congolaise dont la vie bascule après un accident de moto de son fils de 14 ans.
C'est un film qui ne nie pas les problèmes, part des problèmes, mais c'est un film qui dit que nous avons à construire quelque chose ensemble. Donc c'est un film que j'ai voulu, nous avons voulu, optimiste à l'intérieur de notre réalité, de nos réalités, qui sont des réalités difficiles. Il s'agit de continuer de construire, comme dit Papy à un moment à Gaëtan, « Je serai ton soldat, il faut refaire les choses encore et encore. Nous sommes beaux, nous sommes dignes. » Et c'est un film qui regarde devant, ouais, qui est un film pour l'avenir.
Vero Chanda Bea joue le rôle de Félicité dans ce film au style un peu documentaire.
Moi, j'ai bien aimé ce rôle parce que quand je vois les gens, les mamans, les enfants, mères, tous les jours à l'hôpital, chez nous là-bas au Congo, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a fait mal. C'est comme ça, j'ai mis toute l'énergie et tout le cœur dans le film parce que c'était une belle expérience.
Pour Alain Gomis, qui est sénégalais de père et français de mère, les trois acteurs principaux du film, pour qui ce fut une première expérience, ont fait preuve d'une intelligence de jeu qui l'a impressionné. Le film Félicité est en lice pour l'Ours d'Or, aux côtés de 18 autres films.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
La chanteuse britannique Adele est entrée dans l'histoire des plus prestigieuses récompenses de la musique américaine hier soir à Los Angeles. La diva a remporté les trophées des meilleurs albums, enregistrements et chansons de l'année aux Grammy Awards. Elle est la première artiste à avoir remporté ces trophées deux fois. Elle a tenu à rendre un hommage vibrant à l'autre grande favorite de la soirée, la superstar Beyoncé, Jacques Aristide.
And the Grammy goes to, hello, Adele.
Grand messe annuelle du monde de la musique, les Grammy Awards n'ont pas déçu hier soir. Et s'il y a donc une artiste qui a été la grande gagnante lors de la 59e édition, c'était bien Adele, l'interprète de Hello, a raflé tous les prix dans lesquels elle était nommée, ce qui lui donne un palmarès de 15 sur l'ensemble de sa carrière. En récupérant son prix de meilleur album de l'année pour 25, la chanteuse a dédié sa victoire à sa concurrente Beyoncé.
Mon rêve et mon idole, c'est Queen Bee. Je t'adore. Tu m'inspires chaque jour qui passe et tu le fais depuis 17 ans maintenant. Je t'adore et je veux que tu sois ma maman, d'accord?
Mais Beyoncé n'est pas rentrée bredouille. La diva américaine a décroché deux trophées. Lemonade, Beyoncé! Meilleur album urbain contemporain pour Lemonade, album acclamé par les critiques, de même que meilleur clip vidéo intitulé Formation. Elle a surtout ébloui le public au cours d'une prestation en forme d'ode à la maternité où elle a dévoilé devant les caméras son ventre rebondi de femme enceinte. Avec Lemonade, Beyoncé rend hommage à la persévérance des femmes de la communauté africaine-américaine.
We all experience pain and loss.
Nous éprouvons tous de la douleur et la perte, et souvent nous devenons inaudibles. Mon intention en faisant le film et l'album était de créer une œuvre qui donnerait une voix à nos douleurs et luttes, à nos idées sombres et à notre histoire. C'est de pouvoir faire face aux problèmes qui nous mettent mal à l'aise.
La soirée a également été marquée par le bel hommage de Bruno Mars à la défunte légende du rock Prince en interprétant Let's Go Crazy. Pour leur part, le groupe de rap A Tribe Called Quest, les chanteurs de hip-hop Anderson .Paak ou encore Busta Rhymes ont été les artistes qui se sont livrés aux prestations les plus chargées politiquement. Parmi les autres vainqueurs, mentionnons Chance the Rapper, qui a remporté trois catégories, dont meilleur nouvel artiste, sans vendre un seul CD ou un seul téléchargement, et Maren Morris, meilleure vedette du pays, pour My Church.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme Top 10 American Music, l'actualité de la musique pop américaine. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-31-40, vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Lionel Gaïma, présentation Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour l'actualité en continu. Bonne soirée à tous et à bientôt.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.